La série musicale d'été, Étienne Menu, une histoire française de l'exploration sonore.
Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre histoire française de l'exploration sonore, aujourd'hui consacrée à Hugues de Courson, de Malicorne à Mozart l'Égyptien. Si vous avez l'occasion au mois d'août de passer en Bourgogne, faites donc un tour à Semur en Auxois. Vous y mangerez très bien à la table du Bœuf qui chante, un restaurant où l'on peut déguster des plats du monde entier. Le chef y est espagnol, mais il a le goût des mélanges, tout comme le propriétaire des lieux, un fringant septuagénaire, qui une fois par semaine organise des soirées où l'on tape le bœuf, d'où le nom de l'endroit. Car le patron est lui-même musicien, et s'il est aujourd'hui plutôt sédentaire, il a jadis parcouru le monde avec ses instruments et ses ambitieux projets. Il s'appelle Hugues de Courson, et comme Hector Zazou, dont nous parlions hier, il a été le cerveau de multiples superproductions internationales, telles que L'Ambarena Back to Africa, Mozart l'Égyptien 1 et 2, ou encore Songs of Innocence. Courson n'a en revanche pas du tout la même histoire que Zazou, l'ex-punk, car bien avant ses succès mondiaux, ce Parisien a écrit pour Françoise Hardy ou Hugo Frey, et surtout exploré à sa façon nos folklores régionaux avec son groupe Malicorne, puis son label Ballon Noir. C'est donc son parcours que nous allons vous raconter aujourd'hui jusqu'à 16h dans la série musicale d'été. Hugues de Courson naît juste après la guerre à Neuilly-sur-Seine. Il vient d'une famille de militaires et son père officier accepte un poste en Espagne. Le jeune Hugues y grandit donc et se passionne vite pour la musique. Il découvre le flamenco, touche à différents instruments, dont la cornemuse. Il joue beaucoup, mais en revanche n'apprend pas vraiment le solfège. Il écrit également des paroles de chansons et même quelques essais de romans. De retour en France, il entre au lycée Henri IV à Paris et se lie d'amitié avec un jeune homme qui, comme lui, caresse de modestes ambitions littéraires. Les deux hippocagneux se promettent de chacun rédiger un manuscrit qu'ils enverront ensemble aux éditeurs parisiens. Leurs textes achevés, il les expédie donc aux grandes maisons de la rive gauche. De Courson ne recevra que des réponses négatives, tandis que son ami, un certain Patrick Modiano, signera par la suite un contrat avec Gallimard, qui publiera son premier roman. Le jeune Hugues choisit dès lors plutôt d'écrire des paroles de chansons et de se consacrer à la musique en général. En 1967, De Courson et Modiano auront toutefois l'occasion d'enregistrer quelques chansons ensemble dans l'espoir de les proposer à des interprètes connus et pourquoi pas d'en faire des tubes. Une décennie plus tard, ces maquettes seront exhumées par Modiano et commercialisées sous le nom de Fond de tiroir. On y trouve entre autres un bref et magnifique morceau appelé Le Commandeur, composé et chanté par De Courson sur des textes de son ami et futur prix Nobel de littérature.
Dans la salle des pas perdus de Saint-Lazare, dans la foule de 6h du soir, qui marche vers les trains banlieues, te souviens-tu encore du vieux que tous les gens bousculaient? Le vieux regard inquiet, le vieux qui avait un drôle d'air, nous l'appelions le commandeur. Moi, je me souviens encore de cette vieille tante aux cambrures militaires, toujours debout devant le monument aux morts. Son regard s'enflammait encore quand passait un permissionnaire, un jeune marin beau comme le jour, au pont rouge, au regard clair, qui prenait le train de Cherbourg. Il les voyait partir au front, les beaux bruns et les grands blonds. Est-ce qu'il les reverrait vivants? Il se le demandait souvent. Il guettait les soldats. Il aimait les soldats. Nous l'appelions le commandeur.
En 68, De Courson et Modiano signent le petit tube « Étonnez-moi Benoît » pour Françoise Hardy. Ils lui écriront également les paroles 2 ans plus tard d'un autre succès, « Je fais des puzzles ». De Courson commence à percer dans le métier, comme on dit à l'époque, en écrivant pour Régine ou Hugo Frey. C'est qu'il doit travailler dur car il est récemment devenu le père d'une petite fille, Anaïs. En parallèle de sa carrière dans la chanson, il est programmateur chez FIP, fait des BO de films et compose des jingles publicitaires, entre autres pour les matelas d'un Lopilo ou la lessive Supercroix. En somme, tout cela lui permet à peu près de voir venir. Sur Cythère, Hugues doit effectuer tardivement son service militaire au début des années 70. Un jour, qu'il est à l'infirmerie de la caserne, il y fait la connaissance d'un certain Gabriel Yacoub. Les deux hommes parlent vite de musique et Yacoub lui propose de participer à un groupe folklorique. Avec Yacoub, De Courson joue d'abord au sein du projet Pierre de Grenoble, qui mue ensuite en Malicorne vers 1973. En France, le répertoire breton est déjà exploré par Alan Stivell. En Alsace, c'est Roger Siffer qui honore les traditions locales. Les membres de Malicorne, eux, ne sont pas vraiment liés à une région. Ce qui leur plaît, c'est la découverte, en moderne, en étranger, de tous ces terroirs ancestraux.
Allons au bois dame lombarde, allons au bois. Allons au bois, dame lombarde, allons au bois. Nous trouverons le serpent verde, nous le tuerons. Nous trouverons le serpent verde, nous le tuerons. Dans une pinte de vin rouge, nous le mettrons. Dans une pinte de vin rouge, nous le mettrons. Quand ton mari viendra de chasse, grand soif fera. Quand ton mari viendra de chasse, grand soif aura. Tire du vin, dame lombarde, tire du vin. Tire du vin, dame lombarde, tire du vin. Et par ma foi, mon âme en pierre n'y a de tirer. Et par ma foi, mon âme en pierre n'y a de tirer. L'enfant du bré jamais ne parle à bien parler. L'enfant du bré jamais ne parle à bien parler. Ne buvez pas de ça, mon père, vous en mourrez. Ne buvez pas.
pas de ça, mon père, vous en mourrez. Buvez-en vous de melon barde, buvez-en vous. Buvez-en vous de melon barde, buvez-en vous. Et par la foi, mon amant Pierre, n'ait point de soif. Et par la foi, mon amant Pierre, n'ait point de soif. Elle n'a pas bu demi-verre, c'est renversé. Elle n'a pas bu demi-verre, c'est renversé. Elle n'a pas bu le plein verre à trépasser. Elle n'a pas bu le plein verre à trépasser.
Yacoub et de Courson se plongent ensemble dans les patrimoines auvergnats, berrichons, se rendent compte que les carnets de chants officiels ont souvent été expurgés au fil des années. Ils mettent la main sur des textes oubliés, des choses grivoises, païennes, voire satanistes. C'est toute la face cachée des chansons populaires des siècles passés qu'ils remettent en lumière. Outre cette relecture historique pour le moins savoureuse des traditions hexagonales, De Courson, Yacoub et leurs amis imposent aussi avec Malicorne une certaine vision du rock et de la folk en y intégrant groove, synthétiseur et modalité.
C'est quatre filles, quatre garçons se sont enivrés dans une danse. Le jour qu'ils sont entrés là est le jour de Saint-Nicolas. Ils sont entrés dans une chambre avec le joueur de violon. On fait dire au maître des lieux qu'il danserait jusqu'au matin. Ils ont dansé 62, certainement une danse affreuse. Ils ont fait de si grands efforts. Ils ont dansé jusqu'à la mort. Le maître de cette maison bien poliment fut leur dire qu'il était temps de s'arrêter, car le grand Dieu allait passer. Allez lui dire à ce misérable qu'il vienne s'asseoir et prendre un verre. J'ai du bon vin sur notre table, qu'il vienne s'en verser un coup. Va-t'en lui dire que prétendons de contre lui de danser jusqu'à la minuit. Ils ont dansé, ils dansent encore, ils danseront jusqu'à la mort.
Le renouveau des musiques régionales des années 60-70 a pu parfois frôler l'arnaque pour touristes. Mais chez Malicorne, la référence au répertoire ne se suffit jamais à elle-même, puisque celui-ci est toujours librement interprété. Ce retour aux sources, qui n'en est pas vraiment un, est au contraire l'occasion de renouveler des idiomes contemporains rabâchés à l'aide d'outils venus d'un obscur passé. Et c'est donc, en cette époque moderne, une manière non pas de pleurer un temps révolu, mais plutôt de faire résonner l'âme immémoriale qui vibre en nous.
J'allais voir qui n'avait pas encore 15 ans. Elle n'avait pas encore 15 ans. J'allais la voir. Son père m'a donné mon congé. Quel désespoir. Tout garçon qui sait bien son maître ne fait pas l'amour quand il veut. J'ai bien manqué une seule fois d'aller la voir. La belle me l'a reproché plus de 100 fois. reviens donc, amant fidèle, ne manque pas d'y revenir. Reviens le jour, la nuit aussi, mon bel ami, pour toi les portes y sont ouvertes, le jour, la nuit. Le pauvre galant ne manqua pas l'heure, il arriva sur la lune. Belle, dormez-vous, sommeillez-vous, belle endormie, dehors ici je vous attends, de froid transi. Montez là-haut, dedans ma chambre, toutes les nuits je pense à vous. Déchaussez-vous, parlez tout bas, mon bel ami, car si mon père vous entend, quand je suis. Pas deux heures ensemble que l'alouette chanta le jour. Belle alouette, tu as menti quand tu ne chantes le point du jour, n'est que minuit. Ah si l'amour prenait racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai, j'en sèmerai aux quatre coins. J'en donnerai à ces fillettes.
Le soin maniaque et jouissif accordé aux orchestrations et arrangements des albums de Malicorne ne relève pas juste du caprice, surtout lorsqu'on regarde le chemin accompli depuis par Hugues de Courson. Et ce n'est pas parce que son groupe a vendu des millions de disques, notamment grâce au tube « J'ai vu le loup, le renard et la belette », qu'il compte se reposer sur ses lauriers. Déjà inspiré par une carrière de producteur au service d'autres artistes, il décide en 1978 de quitter la formation pour aller s'occuper du label qu'il a lancé un an plus tôt, « Ballon Noir ». L'une des premières sorties de Ballon Noir est l'album de Disciples de Malicorne qui ajoute au folk progressif des touches de hard rock, voire de disco. Là encore, la base folklorique sert plus ou moins de prétexte à finalement se retrouver à peu près n'importe où. Ripaille, c'est le nom du groupe, ne connaîtra pas le même succès que Malicorne, mais leur unique album, La vieille que l'on brûla, devrait pourtant figurer dans tout bon cabinet de curiosité française qui se respecte. Un autre groupe de Ballon Noir mériterait le même honneur, sur une ligne peut-être moins brutale et plus hallucinée.
Je jeu de loi rouge et noir, jeu de loi sang et or. Dans ce jeu sans espoir, vous serez les plus forts.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Les dés sautent dans ma tête, ce n'est pas moi qui les jette. Jamais.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
On joue pour moi et j'avance, je recule ou je danse.
Valet.
Jeu de loi rouge et noir, jeu de loi sang et or. Dans ce jeu sans espoir, vous serez les plus forts.
4, 5, 6, 4, 5, 6.
En moi les cases défilent, je perds souvent le fil du jeu.
4, 5, 6, 4, 5, 6.
Je crois que perdre ou gagner ne peut plus que me jeter au feu. Rouge et noir, jeu de loi sang et or. Dans ce jeu sans espoir, vous serez les plus forts.
4, 5, 6, 4, 5, 6.
Je dois courir, m'élancer, reculer pour mieux sauter les cases.
4, 5, 6, 4, 5, 6.
Je ne dois pas m'arrêter de piétiner pour rester sur place.
La confrérie des fous, ce ne sont pas des émules de Malicorne, mais simplement un ancien du groupe, Laurent Vercambre, resté en bon terme avec De Courson, et qui a réuni quelques amis, dont parfois Hugues lui-même, pour former un collectif dont on ne sait trop s'il se prend beaucoup trop au sérieux ou s'il se fiche totalement de nous. Leurs chansons folk, parodiques et extrêmes s'inspirent de la fête des fous, une coutume d'origine médiévale qui voyait, les trois jours suivant Noël, prêtres et bonnes gens se livrer à des pratiques délirantes mais tolérées. Un phénomène de type carnavalesque que l'on nomme mascarade.
Il faut que je sois rapide, mais je ne vois que le vide. La pluie vient me tourmenter, bientôt la nuit va tomber avec l'été.
Parmi cette confrérie de fous, on compte plusieurs chanteuses, dont Emmanuelle Parenin, par ailleurs compositrice et multi-instrumentiste, qui sort sur Ballon Noir l'album Maison Rose en 1977. Celui-ci deviendra, de longues années plus tard, un objet de culte parmi les amateurs d'étrangetés visionnaires. Maison Rose est en effet un disque troublant qui juxtapose chansons folk dépouillées et plongées dans les ténèbres qu'on ne voit pas forcément venir de loin. Le morceau que nous écoutons, Topaz, sonne lui comme une forme inconnue de hip-hop instrumental en pleine descente aux enfers.
Thank you.
Dans un portrait que lui consacrait Libération en 2011, on apprenait qu'Emmanuel Paronin avait joué en première partie des Clash à Pantin en 1980, avant de se convertir au théâtre et à la danse. Elle vécut ensuite une descente aux enfers, bien réelle cette fois-ci, puisqu'elle devint sourde en 1989. Aujourd'hui miraculeusement soignée, elle a sorti plusieurs nouveaux disques depuis le début de cette décennie. Autre joyau du catalogue Ballon Noir, Benoît Wiedemann est lui un ancien membre non pas de Malicorne mais d'un autre groupe culte de la France post-68, Magma. Pianiste au toucher virevoltant et adepte précoce des synthétiseurs, Benoît Wiedemann semble avoir été sur ses deux albums pour Ballon Noir, inspiré par l'océan, les vagues et l'élément liquide en général. Sur Tsunami, il s'imprègne des traditions japonaises, d'un regard curieux mais aimant, un peu comme de Courson peut l'être avec les folklores qu'il se plaît à métamorphoser. Nous pourrions écouter tout le catalogue du label, mais il nous faut maintenant, pour fermer ce chapitre sur Ballon Noir, revenir au Hugues de Courson, non plus producteur, mais parolier.
Tu es le sosie du 30e tirage d'une reproduction en décalcomanie du portrait robot de la sœur jumelle de la doublure d'une actrice que j'aimais il y a bien des lunes dans une autre vie. Photocopie dans l'original.
leur bouche de papier. Nos vies s'effacent comme des carbonisés. Nos masques s'embrasent de leur bouche de papier. Nos vies s'effacent comme des carbonisés.
Pour son ami Olivier Kowalski, un ex-malicorne converti au rock pur et dur, De Courson signe une complainte amoureuse mais aussi théorique sur la multiplication du faux et finalement sur la relativité du vrai. Une façon de nous dire peut-être qu'il ne croit en aucune vérité musicale absolue.
Lequel est le vrai? Tu me fais penser au pâle reflet d'une photographie, du facsimilé d'un mauvais cliché, de l'imitation mal interprétée, d'un tableau que j'aimais il y a des années, mais qui était faux.
Comme des carbonisés, nos masques s'embrassent de leur bouche de papier, nos vies s'effacent comme des carbonisés.
Malgré un nombre de références plutôt réduit, quelques dizaines de disques au total, Ballon Noir a donc couvert de multiples régions et ce genre de rock de station-service en fait lui aussi partie. De Courson raconte d'ailleurs que le contrat d'une prometteuse signature rock du label, voire carrément punk, les Parisiens de 12 degrés et demi, avait été racheté à Ballon Noir par CBS. Sauf que la major ne voulait en réalité non pas les faire exploser, mais au contraire les mettre au placard afin d'éviter qu'ils ne fassent de l'ombre à leur rocker maison, le groupe Trust de Bernie Bonvoisin. Au fil des années 80, Hugues de Courson va lentement évoluer vers une approche sinon plus savante, du moins plus éduquée de sa pratique musicale. À la quarantaine, il apprend le solfège et commence à composer pour des chorégraphes comme Philippe de Coufflet. Et surtout, après s'être nourri de tout ce qu'il avait pu trouver à l'intérieur des frontières de la France, il décide à présent d'aller voir le grand monde. Au début des années 90, il est lauréat du prix Léonard de Vinci, décerné par le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'une résidence hors les murs de la Villa Médicis qui lui permet d'aller étudier la musique en Égypte, d'abord pour quelques mois. Et puis ces quelques mois se transforment en années, et 3 ans plus tard, il a visité et reçu des enseignements d'à peu près toutes les cultures du bassin méditerranéen. Il est donc mûr pour un nouveau projet qui chercherait à fusionner ses multiples apprentissages. Ce sera le groupe Spondo. Spondo emprunte à Magma l'idée d'une langue imaginaire et syncrétique qui correspond à l'idée de musique totale et métissée chère à De Courson. Il y convient un Hongrois, Ivan Lantos, une Française du nom de Valérie Joly, et puis le frère de Kate Bush, Paddy Bush. Le groupe joue notamment à Jérusalem et Nazareth, accompagné d'un énorme orchestre israélo-palestinien. L'album qu'il sort en 93 ne rencontrera, hélas, pas son public. Mais Courson n'est pas du tout le genre d'homme à se décourager. Il poursuit donc sa quête en s'aventurant plus au sud, en Afrique subsaharienne. Et voici qu'en 94, sur une commande d'Omar Bongo et de Elf Gabon, il élabore avec le guitariste Pierre Akendenge un hommage musical au Dr Schweitzer. Alsacien et protestant, Albert Schweitzer est célèbre pour avoir monté un hôpital dans la ville de Lambaréné au Gabon. Il y traitait ses patients en associant médecine européenne et africaine. Courson, lui, voudrait essayer de faire la même chose, mais sur une partition. C'est ainsi que naît le projet Lambaréna, sous-titré « Back to Africa ». Car on le sait moins, mais Schweitzer était habité par la musique de Bach, au sujet de laquelle il avait écrit dans sa jeunesse. L'occasion est donc vraiment trop belle pour que les deux musiciens puissent la laisser passer. Lambaréna s'écoulera à près d'un million d'exemplaires dans le monde, un chiffre hors norme pour de la musique dite classique. Mais pour De Courson, ce cosmopolite radical, la route du succès ne fait que commencer. En 1997, De Courson sort son projet le plus fameux, Mozart l'Égyptien. Une fusion pour le moins audacieuse de musique arabe classique et de quelques grandes pièces du génie autrichien. Avec Nasreddine Dalil et Ahmed El Maghrebi, deux musiciens qu'il a rencontrés au Caire lors de ses années nomades en Méditerranée, De Courson met au point une partition qui sera jouée par 150 musiciens, à la fois arabes et occidentaux. Les concerts donnés partout dans le monde connaissent un succès retentissant. We'll be right back. Pour de Courson, cette rencontre ne pouvait pas ne pas avoir lieu puisque, dit-il, Mozart baignait dans l'orientalisme de son époque et se montrait fasciné par l'Égypte des pharaons. De leur côté, les Égyptiens apprécient selon lui le caractère envoûtant de l'art mozartien, ainsi que son aisance à passer du léger au sacré. Et surtout, l'ex-Malicorne trouve un terrain de jeu grisant dans l'espace qui sépare tonalité et modalité. La verticalité de la première et l'horizontalité de la seconde doivent, pour être conciliées, se trouver reliées par la diagonale du fou. Il y a donc quelque chose de presque magique, voire de sorcier, dans l'approche de Courson. Évidemment, les puristes n'apprécient pas tous, pourtant De Courson reste encore assez sage dans ses adaptations et laisse même certains passages originaux presque tels quels. Il finira par aller plus loin quelques années plus tard, mais nous y reviendrons. En attendant, notre aventurier des métamorphoses va quitter le continent africain pour gagner l'Amérique du Sud et écouter chanter les enfants. Thomas que Thomas est sans doute la chanson la plus connue de la discographie de De Courson, même s'il s'est, entre guillemets, contenté de la découvrir puis de l'adapter. Au départ petite comptine andalouse, elle a essaimé dans les cours de récréation du monde latino-américain. Avec Thomas Gubich, guitariste argentin qu'il connaît depuis ses années Malicorne, le compositeur lui ajoute de surprenants arrangements d'inspiration bulgare. Le titre est aujourd'hui un étrange tube dont personne ne semble bien savoir dire d'où il vient. On dirait du jazz des Balkans, mais que vient faire cet enfant? Et pourquoi chante-t-il en espagnol? Mais qui êtes-vous donc, jeune homme? En 2000, De Courson s'envole cette fois-ci pour la Finlande où il travaille avec le collectif Vartina dont nous parlions hier au sujet d'Hector Zazou. Leur polyphonie percutante et les angles tranchants de la langue finnoise rappellent l'énergie de Thomas que Thomas, tout en annonçant un peu ce qu'allait faire en France la chanteuse Camille quelques années plus tard.
Juma vei ja juma voi käppee, hei kohemmo, juma vei juu. Yuma veia, yuma boi cape, hei kohemo cape, hei kohemo yuma veiu.
Et puis en 2001, De Courson va collaborer à l'album de l'accordéoniste basque Kepa Junkera. Celui-ci est déjà connu pour son goût des mélanges, notamment avec le jazz. Et lui aussi joue de la musique modale comme à peu près tous les folklores sonores existants. En y ajoutant de belles touches plus modernes, l'accordéoniste basque rejoint De Courson dans sa foi en les pouvoirs transformateurs de la fusion. Le langage musical doit être bouleversé pour dire des choses plus belles. Composer hors des règles imposées est un devoir pour quiconque veut créer une poésie instantanée, saisissable par tous. En 2003, De Courson délaisse un temps sa passion cosmopolite, mais ne renonce pas pour autant à mélanger. Seulement, il ne s'agit pas ici de deux répertoires, mais d'un répertoire, en l'occurrence médiéval, et d'un outil, la machine.
Oh,
Oux Obscura ne sera pas le plus grand succès de Hugues de Courson, mais il reste un disque fantasque qui fait cohabiter voix anciennes et rythmiques synthétiques dans l'espace du studio. Si certaines de ses plages peuvent sembler un peu kitsch 15 ans après, il n'en garde pas moins une patine très millénium et un goût du risque qui peut s'avérer salutaire au sein de ces deux univers aussi opposés que codés. Nous évoquions plutôt la carrière de De Courson dans le monde de la danse contemporaine. Depuis les années 80, il a en effet composé pour une vingtaine de créations, travaillant auprès de chorégraphes comme Karine Zaporta, François Raffineau et, comme nous le disions déjà, Philippe de Coufflet, dont nous entendons ici le spectacle Décodex, ou plutôt sa bande-son, avec une plage intitulée L'Horloge, écrite en 1996. En 2004, De Courson refuse de laisser tourner l'horloge plus longtemps et cède enfin à la tentation. Il se lance dans la fabrication d'un deuxième Mozart l'Égyptien. Contrairement au volume 1 de Mozart l'Égyptien, cette fois-ci, De Courson ne s'est pas bridé du tout. Il est même allé jusqu'à réécrire certaines partitions originales. Il scandalise encore une fois la critique, le Nouvel Observateur, qualifie l'œuvre de « bordel ». Mais soyons honnêtes un instant, franchement, qui n'a pas envie d'entendre la Reine de la Nuit de la Flûte Enchantée se transformer en Reine des Mille et Une Nuits ? Je vous le demande. Thank you. Ces dernières années, De Courson est souvent revenu sur les terres de son enfance en Espagne pour produire entre autres l'album Sourd du pianiste flamenco Dorantes, dont nous écoutons un extrait pour clore cette heure passée à retracer sa carrière. Et il continue bien sûr de jouer, notamment lors des soirées bœuf qu'il organise dans son restaurant de Semur en Auxois. Avant de nous quitter, nous tenions par ailleurs à faire nos plus plates excuses à Hicham Mayette du label Sublime Frequencies, dont nous parlions lundi dans notre épisode consacré à son mentor et ami Charles Duvel. Cet Américain n'est en effet pas du tout d'origine égyptienne, comme nous avons pu le dire, mais libyenne. Please accept our apologies for this mistake, Mr. Mayette. Cette émission a été réalisée par Milena Hellig et préparée par Hugo Jacquemin, prise de son Jacques Hubert. Merci à Antoine Villose de la discothèque de Radio France. Un grand merci aussi à Hugues de Courson. Nous nous retrouvons demain pour le cinquième et dernier épisode de notre histoire française de l'exploration sonore qui sera consacré à Pierre Barou et son label Sarava. Très bon après-midi à l'écoute de France Culture.